Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Les images ne manquent pas depuis le début de la Coupe du Monde de football au Qatar. Entre des Iraniens qui refusent de chanter l'hymne national, des Anglais qui posent un genou à terre, ou encore, dernier événement en date important, les Allemands, la main devant la bouche lors de la photo d'avant-match pour mimer un baillon, les empêchant de s'exprimer. On avait rarement vu, peut-être même qu'on n'avait jamais vu autant de messages envoyés par des sportifs lors d'une compétition internationale. D'où notre question ce soir, le sport est-il devenu une vitrine politique ? Vitrine pour les sportifs, mais est-ce leur rôle de s'engager ainsi ? Et quel impact cette mobilisation ? Et puis vitrine pour le pays organisateur qui, à travers une compétition internationale, entend engranger des gains sur le plan diplomatique. Pour quel résultat ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à toutes ces questions, mes trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine, auteur de « Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs ». Face à vous, Lucas Aubin, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste de la géopolitique du sport, co-auteur de l'Atlas géopolitique du sport avec Jean-Baptiste Guégan. Notre troisième invité est en ligne avec nous, bonsoir Carole Gomez.
Bonsoir.
Vous êtes assistante diplômée au sein de l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Alors d'abord, j'aimerais savoir ce que vous inspire toutes ces actions là, que je viens de recenser, que je viens de citer, qui sont menées depuis le début du mondial. On peut commencer avec vous, Lucas Aubin. Comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce que déjà vous êtes surpris ?
Non, absolument pas, et même au contraire, en fait. C'est-à-dire que le sport moderne tel qu'on le connaît est apparu en Angleterre au début du 19e siècle. Il est devenu très rapidement, finalement, en 150 ans à peu près, un fait social total qui touche aujourd'hui toutes les populations du monde entier, qu'on le veuille ou non, en réalité. Et comme tout fait social, en réalité, il est utilisé d'un point de vue politique et de plus en plus. Aujourd'hui, un événement comme le Mondial de football, ça réunit ni plus ni moins qu'à peu près 4 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité, qui le regarde à un moment donné. Donc évidemment que les joueurs, mais aussi les politiques et la société civile, les sociétés civiles l'utilisent comme un outil politique.
Mais c'est juste l'évolution du monde qui veut ça, pas parce que ça se passe au Qatar d'abord ?
Il y a un peu, évidemment, il y a plein d'arguments possibles, bien sûr. Il y a le fait que ce soit au Qatar, mais il y a aussi le fait qu'il y ait telle et telle nationalité qui soit représentée, etc., etc. Mais si vous regardez, à chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques ces dernières années, dans des pays notamment émergents, des critiques, il y en a eu toujours, en fait. Et de plus en plus, finalement, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine ou d'autres pays. Aujourd'hui, on est dans un moment où, finalement, des modèles s'opposent, des modèles démocratiques, face à ça, des modèles autoritaires, semi-autoritaires, etc., etc. Et ça crée du débat. Mmh. Ça crée, finalement, une forme d'échange qui n'existait peut-être pas avant, en tout cas pas de cette façon-là.
Mmh. Fabien Archambault, c'est un mouvement qui est, comme le dit Lucas Aubin, vous êtes d'accord, de plus en plus important, cette, entre guillemets, politisation du sport, en tout cas, ces sportifs qui envoient des messages.
Alors, à mon avis, ce qui est le plus surprenant, c'est que la Coupe du Monde de football commence à être politisée de cette façon. Mmh. C'est-à-dire que dans les deux grandes compétitions internationales, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, puis la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de football était celle qui était moins politisée que les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est parce que c'est une histoire qui est connue, les Jeux Olympiques d'Anvers, les athlètes qui sont issus des puissances vaincues, des puissances centrales vaincues, qui ont été interdits de participer aux JO d'Anvers. Et donc, ça voulait dire qu'ils n'étaient plus des compétiteurs individuels, mais les représentants d'une nation. Donc ça, on le savait. Et finalement, les Jeux Olympiques, il y a eu des formes de politisation très tôt. Alors, des formes de contestation, c'est-à-dire par exemple la première campagne de boycottage, ça a été pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Quand on se souvient de 1968,
les points gantés.
Finalement, la Coupe du Monde de football était un peu en retrait du point de vue de la politisation, probablement parce qu'elle n'a pas été un enjeu essentiel de la guerre froide sportive. C'est-à-dire qu'autant à partir des Jeux Olympiques de 1952, quand l'URSS rejoint le mouvement olympique, il y a une course froide aux médailles qui se joue à chaque Olympiade. En football, du fait que les États-Unis n'ont pas une équipe de football compétitive, que pour eux ça ne signifie pas grand-chose dans leur société, il n'y a pas eu un affrontement direct entre les deux grands. Finalement, la seule manifestation politique directement dans la Coupe du Monde de football, ça a été en 1978, la finale, entre l'Argentine et les Pays-Bas, où les joueurs des Pays-Bas ont refusé d'aller recevoir la médaille de finaliste pour ne pas avoir à serrer la main au général Videla, au dictateur. Mais c'était la première fois, en fait, qu'il y avait une contestation qui était immédiate.
Oui, parce que même il y a 4 ans, alors vous disiez, vous, Lucas Aubin, que c'était de plus en plus fort, cette politisation. Mais il y a 4 ans, je renvoie vers Fabien Archambault, c'était en Russie, la Coupe du Monde. Alors, c'était évidemment avant la guerre en Ukraine, mais il y avait déjà des griefs à porter contre la Russie sur la question des droits humains, et il n'y a pas eu de contestation. Enfin, on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui au Qatar.
Oui, alors, après, est-ce que ça tient pas, alors, déjà, au fait que le football est moins universel que les Jeux Olympiques? Au sens, alors, de moins en moins, puisque le football, bon, qui est le premier sport mondial et qui conquiert des espaces qui ne l'étaient pas jusque-là. Et ça va continuer, c'est-à-dire que là, il y a eu le Qatar, mais il y aura une Coupe du Monde en Chine, il y aura une Coupe du Monde en Inde un jour. À mon avis, où est-ce que vous... Quelle était votre question déjà ? Excusez-moi.
Non, je vous renvoyais sur le fait qu'il y a 4 ans, il y avait très peu de politisation finalement, alors que la Coupe du Monde se déroulait en Russie, et que là aujourd'hui, c'est un changement majeur. Mais j'ai compris ce que vous voulez dire, et j'aimerais entendre Carlo Gomez sur ce point-là. Est-ce que vous avez l'impression, Carlo Gomez, que bah, finalement, comme le dit Fabien Archambault, il y a un changement majeur avec cette Coupe du Monde au Qatar ? Peut-être qu'il y aura un avant et un après sur cette question de l'engagement des sportifs dans une Coupe du Monde ?
Oui, alors même si il va être très compliqué d'arriver à tirer des conclusions d'un événement qui est encore en cours et dont on ne sait pas encore les différents événements qui vont se passer, en revanche, je rejoins Fabien Archambault sur le fait qu'il y a sans doute une rupture, même si, à mon sens, je ne l'attribuerai pas uniquement à ce méga événement sportif, mais plus à une accumulation de choses qui ont fait que désormais on prend véritablement conscience de la politisation du sport. Il faut aussi avoir en tête que cette politisation du sport, elle a en réalité toujours été présente, c'est juste qu'elle a été pendant très longtemps cachée, sanctionnée, et la mention de Mexico en témoigne parfaitement, et il était assez inaudible d'entendre les positions de sportifs, de fédérations à certains moments. Là, ce à quoi on assiste, avec effectivement, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées en 2018, n'oublions pas non plus l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021, qui a aussi été un vrai cas d'école de tensions géopolitiques et de problèmes politiques qui se sont posés et que l'UEFA a dû solutionner. Et n'oublions pas non plus
avec la question, c'est ça, il y avait déjà la question de pas le brassard arc-en-ciel, mais cette représentation.
Oui, en sachant qu'il y avait, il y a eu la question de la gestion du Covid d'une part, il y a eu la question du brassard LGBT et du stade de Munich qui voulait revêtir les couleurs du drapeau LGBT pour protester contre la décision, la loi, une loi passée en Hongrie qui était ouvertement homophobe. Il y a eu aussi la question du maillot dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avec le maillot ukrainien qui avait dans son encolure et sur son maillot la carte de l'Ukraine qui représentait aussi la Crimée et qui soulève aussi beaucoup de questions. Et donc, pendant cette période, pendant cette année de 2021 et 2022, notamment aussi avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, on a vu une espèce de la politique a fait clairement son entrée au grand jour sur le terrain sportif, et la position qui était tenue par les fédérations sportives internationales ou par le Comité international olympique de séparer à tout prix le sport et la politique est désormais un mythe qui est sans cesse contesté, contredit, et c'est une position qui apparaît de plus en plus compliquée à tenir. Aussi parce qu'ils sont les premiers, ces fédérations et ces acteurs sportifs internationaux, à eux-mêmes faire de la politique. Et donc ils sont dans une position d'équilibriste où à la fois ils revendiquent une neutralité, un apolitisme, mais en cherchant à devenir aussi des acteurs politiques, ceux qu'ils sont par essence.
Alors c'est intéressant, Carlo Gomez, vous soulignez un paradoxe, je vais vous entendre sur ce point. Lucas Aubin, je veux ajouter en écho à ce que vous venez de dire, Carlo Gomez, la règle 50,2 de la charte olympique, aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique.
Oui, alors ça, c'est pour les Jeux Olympiques, mais la FIFA en football a la même idée de la neutralité du sport. Il faut remonter très rapidement, effectivement, à Pierre de Coubertin, qui, quand il a créé les JO et le CIO, Comité International Olympique, en 1894 pour le CIO, 1896 pour les premiers JO, a construit une espèce de mythe autour de l'apolitisme sportif, en disant qu'effectivement, le sport devait être séparé de la politique, quel que soit, par tous les moyens, en gros. Évidemment, le sport, en tant que phénomène social, est devenu politique très rapidement, mais les institutions sportives, elles, n'ont pas évolué sur cette question. Alors, la problématique qui arrive, c'est que quand la Russie, par exemple, envahit l'Ukraine le 24 février 2022, que fait le CIO, que fait la FIFA? Leur première décision, c'est d'exclure la Russie du champ sportif. Donc, ces instances prennent une décision à cet instant extrêmement politique, puisqu'elles disent que là, la Russie, Vladimir Poutine sont allés trop loin, on ne peut plus cautionner ça, donc nous-mêmes, nous ne sommes plus neutres et nous prenons une décision, nous prenons position, en l'occurrence, en faveur de l'Ukraine et contre la Russie. Donc peut-être que ces prises de décision, là, qui apparaissent au grand jour de façon très importante de la part des instances du sport international, finalement, donnent aussi du grain à moudre à la fois aux athlètes, mais aussi aux supporters et aux sociétés civiles de manière générale, qui se rendent compte, entre guillemets, de la supercherie. Une supercherie, peut-être un gros mot, mais en tout cas, de ce mythe de l'apolitisme du sport qui, en fait, n'existe réellement pas.
Alors, justement, en écho à ce que vous dites, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit le président français Emmanuel Macron sur le sujet. Ça vous éveille peut-être quelque chose. À propos de la Coupe du Monde, justement, c'était jeudi dernier. C'était... écoutez.
Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et la vocation, d'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser.
Alors, vous dites que le sport ne peut pas être apolitique, Carole Gomez et Lucas Aubin, je ne vous ai pas encore entendu sur ce point-là, Fabien Archambault. En tout cas, il ne faut pas politiser le sport, dit Emmanuel Macron.
Alors, comme d'habitude, hein, il a tort et raison. Alors, si on se place du point de vue de la FIFA, effectivement, son objectif n'est pas politique. C'est-à-dire que la raison d'être de cette fédération internationale, qui est un organisme privé, c'est la diffusion de son sport. Et donc, dans le long terme, elle a une logique qui va au-delà et qui dépasse les antagonismes politiques et géopolitiques. Donc depuis en gros 1974, c'est-à-dire l'accession de João Havelange, le Brésilien, à la tête de la FIFA, elle est lancée dans une logique de mondialisation du jeu, c'est-à-dire de sortir du binôme Europe-Amérique du Sud qui gérait jusque-là la Coupe du Monde, donc avec une alternance dans l'organisation des Coupes du Monde. Et Havelange se fait élire en 1974 avec les voix des pays du tiers-monde, avec la promesse, un, qu'on augmentera le nombre de participants pour que des pays qui jusque-là ne pouvaient pas participer puissent participer à la Coupe du Monde, et ensuite que l'organisation de la Coupe du Monde tournerait entre continents. Donc ce qui explique 94, les États-Unis, Japon, Corée du Sud en 2002, l'Afrique du Sud en 2010. Donc de ce point de vue-là, aller au Qatar, c'est ils voulaient aller dans un pays arabe au Moyen-Orient. Il y avait plusieurs choix possibles. Le Qatar est riche et donc pouvait en gros répondre au cahier des charges de la FIFA qui est de construire une dizaine de stades avec des normes très élevées. Mais voilà, eux, ça s'inscrit en fait dans une logique qui est beaucoup plus longue, dans la longue durée, où il y a deux systèmes sportifs dans le monde, celui américain et celui européen, et savoir celui qui va gagner un jour.
Mais tout ça, ça crée la politisation du sport. Le fait que ainsi les grands événements se déplacent aux quatre coins du monde.
Bien sûr. Alors, moi, je dirais
que les situations sont complètement différentes dans tous les pays dans lesquels ces compétitions sont organisées.
C'est de l'infra-politique. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, à l'origine, enfin cette compétition-là, si elle existe, c'est parce que l'Amérique du Sud l'a voulu. C'est-à-dire qu'en 1930, il y avait plusieurs solutions qui se proposaient pour décider quelle est la meilleure équipe du monde. Et les Européens voulaient une compétition qui ait lieu en Europe, pas forcément sous la forme d'une compétition très courte en quelques semaines. Et c'est l'Uruguay, mais qui était soutenu par toute l'Amérique du Sud, qui a créé la compétition qu'on connaît maintenant sur le modèle des Jeux Olympiques pour pouvoir s'affronter avec l'Europe pour des raisons qui sont fondamentalement politique qui est sur la définition de leur identité nationale, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont issus de l'Europe, mais qui ont, en gros, se sont appropriés cet héritage pour être meilleurs que les Européens. Donc, et donc là, on parle de politique, forcément.
Donc c'est tout le contexte, vous nous dites, finalement, historique, qui explique la politisation montante du sport. Carole Gomez, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça va complètement à l'encontre du fait qu'on ne peut pas ne pas politiser le sport, contrairement à ce que dit le président français?
Oui, oui. Alors, je me permettrai pas de revenir sur le brillant exposé que vient de faire Fabien Archambault, peut-être plus pour commenter l'extrait qui a été que vous avez diffusé, qui me semble assez intéressant, puisque en l'espace de, je crois, une vingtaine de secondes, le président Macron affirme à la fois ce principe-là que l'on peut comprendre et qui a été très bien démontré par Fabien Archambault, mais en même temps dit exactement son contraire, puisque lui-même indique que ce sont des questions politiques, donc, qui doivent se poser au moment de l'attribution. Et un petit élément qui me semble quand même important de rappeler, c'est qu'en réalité, concernant cette Coupe du Monde masculine de football qui se déroule au Qatar, c'est quelque chose qui a déjà... Il y a des discussions qui ont eu lieu dès le lendemain de cette désignation. Dès le lendemain de cette désignation, il y a eu un certain nombre d'éditos, d'articles, d'enquêtes, de rapports qui ont été publiés sur cette attribution, sur le contexte d'attribution, mais aussi sur la situation des droits humains, des droits LGBT, des enjeux climatiques sur ces sujets. Et justement, quand j'ai entendu pour la première fois cet extrait du président Macron, je me suis un peu repenchée sur les différentes publications qu'il avait pu avoir, et j'ai pu retrouver un rapport, par exemple, d'Amnesty International qui avait été publié en 2013, qui déjà attirait l'attention sur la question des droits humains. Pareil, il y a un certain nombre de chercheurs qui cherchaient à avoir plus d'informations sur la question de la climatisation des stades, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, ou aussi plus largement sur quel serait le bilan carbone de ces éléments. Donc ce qui me semble intéressant avec cet extrait, c'est qu'à la fois il affirme cette position très forte, que l'on peut comprendre de son point de vue pour mille raisons, mais qui en réalité ne résiste pas à l'examen des faits, et qui par ailleurs dément ou se contredit lui-même quelques secondes après en expliquant que c'est quelque chose, un examen politique qui aurait dû avoir lieu au moment de la désignation, ce qui en réalité a déjà été le cas. Donc c'est aussi, en l'espace de quelques secondes, toute la complexité du sujet qui est sur la table, et aussi toute la nécessité d'avoir une vraie réflexion sur ces sujets qui sont importants et qui, je pense, méritent peut-être un peu plus de nuances que ce que l'on peut voir ou les phrases que l'on peut entendre aujourd'hui.
Oui, parce que finalement, nier la politisation du sport, c'est nier la responsabilité des dirigeants qui ont créé finalement cette responsabilité aujourd'hui des sportifs qui n'ont d'autre choix que de s'engager aujourd'hui au Qatar. Carole Gomez.
Oui, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi, c'est le fait de, littéralement, c'est ce qu'a pu dire Lucas précédemment, c'est aussi le fait de nier une réalité. Soit on fait face à cette réalité et on en tire un certain nombre de conclusions, soit on continue à se reposer sur le mythe de la politisme du sport. Mais dans ces cas-là, très rapidement, on va faire face à un certain nombre de contradictions. Il y a par contre un élément qu'on a pour l'instant pas cité et qui me semble quand même tout de même important, et on pourra développer par la suite. On a beaucoup parlé de la présence et des actions des sportifs et des sportives, en l'occurrence des sportifs ici, et des fédérations nationales. On a vu la fédération allemande très largement mécontente de la décision de la FIFA. Il y a aussi la fédération norvégienne qu'on pourrait citer. Il y a aussi un autre acteur qui me paraît intéressant au cours des dernières années et qui est de plus en plus en train de monter, qui sont les sponsors, qui détiennent les cordons de la bourse et qui peuvent aussi, je pense, faire avancer un certain nombre de questions, justement en se désolidarisant de certaines actions, certaines décisions. Ça a été le cas, par exemple, là, lors de cette Coupe du Monde, avec un sponsor allemand qui a décidé de rompre un contrat à la suite de la décision de la FIFA de ne pas autoriser le brassard le brassard One Love. Mais c'est sans doute quelque chose qui sera très intéressant à suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour voir si c'est là encore une tendance lourde qui est en train de s'installer, ou si c'était plus une exception due à un contexte spécifique.
Le sport est-il une vitrine politique? La question de notre débat ce soir. Mes trois invités, Carole Gomez, assistante diplômée au sein de l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne, Fabien Archambault, maître de conférence en histoire contemporaine, et Lucas Aubin, chercheur à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique du sport. Lucas Aubin, j'aimerais poser la question à présent, mais est-ce que c'est au sportif, est-ce que c'est la responsabilité du sportif d'être engagé aujourd'hui?
Je dirais que c'est la responsabilité individuelle de chaque sportif. Chacun prend des décisions en son âme et conscience. Je ne pense pas qu'il faille dire aux sportifs qu'ils doivent s'engager en politique ou qu'ils ne doivent pas le faire. C'est la responsabilité, comme je le disais, individuelle de chacun. Néanmoins, on comprend la difficulté aujourd'hui pour un athlète de haut niveau de savoir comment se positionner dans ce débat, puisque quand vous avez le président français, effectivement, qui dit qu'il ne faut pas politiser le sport et que quelques jours plus tard, vous avez, pour continuer la discussion de tout à l'heure, vous avez le ministère des Sports, aujourd'hui français, qui a déclaré justement que les athlètes français pouvaient prendre position d'un point de vue politique.
Qu'il fallait utiliser les espaces de liberté qui restent pour continuer à exprimer son engagement en faveur des droits humains.
Et donc là, on est concrètement dans le « en même temps » en fait, d'Emmanuel Macron. Alors, c'est pas uniquement lui, il utilise effectivement sa ministre des Sports, mais c'est ce qu'il se passe. Et... si on va un peu plus loin, je continuerai d'ailleurs ce que disait Carole Gomez, qui était très intéressant sur les sponsors, on se rend compte aussi que les événements sportifs sont de plus en plus utilisés désormais par les États qui s'approprient justement ces événements, qui appartiennent en fait soit au CIO, soit à la FIFA normalement. En l'occurrence, on a quand même un pays, le Qatar, qui a décidé 48 heures avant le début de l'événement d'interdire la bière à l'intérieur des stades et aux abords des stades également.
Ça, c'est politique.
Et ça, c'est politique, mais ce n'est pas politique uniquement parce que c'est de la bière, c'est politique parce que la FIFA avait noué un partenariat avec Budweiser à la hauteur de 75 millions d'euros pour que Budweiser soit le principal vendeur de bière dans ces stades et aux abords de ces stades. Et le Qatar a pris cette décision sans consulter la FIFA. Donc on est sur effectivement des éléments assez importants, assez nouveaux, donc des acteurs qui prennent des décisions qui influent sur le cours de ces événements. Donc on a évidemment les athlètes, on a évidemment les supporters, et maintenant on a effectivement les pays, les organisateurs, etc.
Et la boucle est bouclée. Et sur les sportifs, justement, Fabien Archambault, quel impact ça a? Justement les joueurs allemands qui mettent la main devant leur bouche pour mimer un baillon, les Iraniens qui ne chantent pas l'hymne national, c'est uniquement de l'image ou ça peut avoir un impact?
Ah oui, ça va avoir une influence. Enfin, c'est
des laquelle?
C'est des gestes symboliques qui fait que à partir du moment où ils savent qu'ils sont vus par la moitié de la planète quand ils font ça. Et donc, alors, pour revenir sur le parallèle avec les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a une différence, c'est-à-dire que par exemple, les Jeux Olympiques sont des sportifs qui étaient amateurs, c'est-à-dire qui ne vivaient pas de leur sport et qui avaient une autre vie en dehors du sport. Et donc ce qui fait que les revendications politiques étaient beaucoup plus, on va dire, naturelles dans le cas du football, dans le cas d'une industrie. Une industrie culturelle avec des impresarios, donc que ce soit les sponsors, les dirigeants de clubs ou les dirigeants de fédérations, où de toute façon l'idée c'est de ne pas politiser le sport parce que ça pourrait détourner du spectacle une partie du public. Donc là, ce qui est assez surprenant en fait à l'échelle du football, c'est qu'il y ait autant d'engagement qui soit pris à l'occasion de cette Coupe du Monde. Parce que si on regarde dans le passé des joueurs engagés, c'est-à-dire qui, sur un terrain de football, ont essayé de porter un message politique, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a eu Dominique Rocheteau, en France, qui disait en interview qu'il sympathisait avec l'extrême-gauche. Il y avait Paul Breitner en Allemagne, toujours dans les années 70. Il y avait Socrates, là, dans le contexte de la dictature brésilienne. Bon, il y en avait un ou deux en Italie, mais qui n'étaient pas des très grands joueurs, pas très connus. Donc, en fait, cette apolitisme qui est consubstantiel à une industrie qui, justement, ne veut brusquer personne, a généralement été suivi par ces acteurs qui vivent de ce sport. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, Neymar...
Le Brésilien.
Donc, on sait qu'au sein de l'équipe du Brésil, il avait été décidé entre les joueurs de ne pas intervenir dans le débat présidentiel, c'est-à-dire de garder une position de neutralité. Là, Neymar, qui n'est pas n'importe qui par deux fois intervient lourdement dans le débat présidentiel, c'est une sorte de... Enfin, il y a une rupture par rapport aux pratiques habituelles. Oui. Alors après, est-ce que ça va avoir des répercussions sur le terrain? Au Parc des Princes, il n'a pas été sifflé pour ça.
Et ça renvoie finalement à ce que disait Carole Gomez, comme quoi on assiste à un tournant depuis l'année dernière. Elle parlait d'un tournant 2021-2022, confirmé évidemment par cette Coupe du Monde du Qatar. Mais Carole Gomez, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que ce n'est pas un peu facile pour les sportifs aujourd'hui de justement, par exemple pour les Allemands, de mimer le baillon? quelles conséquences? Parce que, par exemple, on a évoqué les points levés du Black Power en 1968. Tommy Smith et John Carlos, les deux athlètes, ont été radiés à vie, exclus à vie des JO. Aujourd'hui, est-ce que, finalement, il n'y a pas une certaine bonne conscience de voilà, s'engager ainsi?
Ben, pour le coup, ce qui est intéressant avec, avec l'action allemande, c'est qu'elle est intervenue à la suite d'une interdiction de la FIFA de communiquer, de porter un maillot avec marqué Love pour la Belgique et de porter des brassards One Love qui avaient été pensés et proposés par un certain nombre de fédérations européennes. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça a été leur façon à eux de protester face à une décision qui a vraiment tardé. Ça fait des semaines que la FIFA doit rendre une décision sur le sujet et qu'elle fait un peu patienter tout le monde pour rendre une décision un peu au dernier moment. Et surtout, il y a eu un certain nombre de menaces, de risques de suspension qui ont été brandis pour effrayer les fédérations, pour effrayer aussi les joueurs qui, clairement, sont aussi leur principal objectif, la raison pour laquelle ils sont à cette Coupe du Monde, c'est de jouer leur match, de les gagner si possible et d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu, il y a eu deux choses qui ont été brandies par la FIFA. Une possible sanction sportive avec un carton jaune, par exemple. Je crois qu'il y avait, il faudra me contredire si j'avais mal interprété, mais je crois qu'il y avait aussi des possibles suspensions ou des retenues de points qui avaient été une hypothèse envisagée. Donc on voit aussi à quel point en essayant de tenir compte des interdictions, des décisions de la FIFA, comment est-ce que l'équipe d'Allemagne a essayé de contourner ces éléments pour faire passer un message. En revanche, ce qui est intéressant ici, c'est il y a deux choses. Il y a d'une part, que va faire la FIFA s'il y a d'autres gestes politiques qui sont brandis, qui sont réalisés dans le cadre, sur le terrain, ou qui sont faits en conférence de presse, d'une part, et d'autre part, qui va être aussi très intéressant à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, c'est voir aussi comment réagissent ces fédérations face à cette interdiction de la FIFA. On sait que la fédération allemande est très remontée sur ce sujet, les Belges également. Le Danemark également a très largement fait part de sa déception et de sa colère face à cette décision et plus largement face à la gestion de Gianni Infantino sur ce sujet. On sait qu'il est le seul à se représenter lors du prochain congrès de la FIFA et donc logiquement il devrait être réélu sans trop de surprises. Mais ça montre aussi à quel point il va être intéressant de suivre politiquement mais aussi judiciairement l'ensemble de ces questions puisqu'il va y avoir des actions en justice qui vont être portées potentiellement par des fédérations.
Oui, parce que ouais, la FIFA qui verrouille finalement l'engagement avec justement cette menace de carton jaune pour qui porterait le brassard, l'engagement des sélections. Lucas Aubin, est-ce que, on a évoqué ce tournant, est-ce que finalement en 2021-2022, est-ce que cette politisation, selon vous, après cette Coupe du Monde, elle est sur un tremplin et elle va continuer tambour battant.
Je pense qu'on est sur un point de non-retour et depuis quelques années, en fait, c'est allé crescendo, mais en gros, je dirais depuis 2014, depuis 2018, le JO de Sochi, Coupe du Monde de football 2018, exclusion des dopés russes de toutes les compétitions internationales. Il y a eu énormément quand même de politisation du sport ces dernières années. Là, effectivement, ce qui est nouveau, c'est que la FIFA continue d'essayer de régenter son sport à sa façon, mais à de l'ancien monde, à la façon de l'ancien monde, en fait. Et on voit qu'il y a une vraie dichotomie entre, d'une part, le fait que certains athlètes, effectivement, expriment des points de vue politiques sur le terrain ou en dehors, etc. Et surtout, parce que la population civile, les populations civiles, notamment en Occident, principalement en Occident d'ailleurs, prennent énormément de position contre cet événement. Et on a parlé beaucoup de boycott ces derniers mois, et pas de boycott uniquement parce que c'est du football, parce que le point de vue écologique, enfin, l'écologie est mise à mal, etc., mais aussi pour défendre les droits humains, les droits des travailleurs qui ont construit ces stades, etc. Il y a eu énormément de revendications différentes. Et effectivement, pour le moment, on ne peut pas dire que le boycott soit franchement suivi. On a vu les audiences, notamment en France, que finalement, elles sont assez stables par rapport au Mondial 2018. Néanmoins, c'est, je crois, la première fois qu'on discute autant ensemble, mais pas seulement sportif à sportif, de sportif à politique, mais aussi d'individus, entre guillemets, évidemment, lambda, de qu'est-ce qu'on fait de ces événements à l'heure où, finalement, le réchauffement climatique est de plus en plus important. Ces questions des droits humains sont sur le devant de la scène, les guerres émergent un peu partout, etc. Donc on est peut-être à un moment de rupture assez nouveau.
Un moment de rupture, un tournant, a dit Carlo Gomez. Merci beaucoup concernant cette politisation du sport, évidemment, toujours plus forte. Merci Fabien Archambault, maître de conférence en histoire contemporaine. Merci Lucas Aubin, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et Carlo Gomez, donc assistante diplômée au sein de l'Institut des Sciences du Sport à l'Université de Lausanne. Merci à Florence Ponce à la préparation, Jérémy Bessé à la réalisation.